dans cet épisode du balado compte complet.
Bien sûr, ce plan-là, le propriétaire, en fait, semblait pas avoir envie de demeurer à Oakland, mais semblait pas avoir de plan non plus, à savoir qu'est-ce que je vais faire. Et même selon notre présentateur, là, qui, bon, selon lui, ce serait pas surprenant que les A's soient vendus, même avant le transfert annoncé à Las Vegas. Je dis bien annoncé parce que c'est pas encore fait.
Au jeu! Deuxième prise! Compte complet!
Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte complet, notre retour après une petite pause. Alain Huzreau en compagnie de Marc Griffin. Beaucoup d'action. Beaucoup de nouvelles. Je reviens du congrès annuel de la Society for American Baseball Research qui se tenait à Minneapolis et on aura l'occasion de parler de ce qu'ont été à mes yeux les faits saillants de ce congrès au cours de ce balado. D'abord, l'actualité, Marc, je veux qu'on commence par parler de la situation des Braves d'Atlanta. Je ne sais pas si on peut dire que c'est inquiétant dans leur cas. Il y a une journée au cours de la semaine qui s'est terminée au cours de laquelle les Braves n'auraient pas fait des séries. Donc, on est dans le trouble à ce point-là. Les deux équipes de l'Ouest, Arizona et San Diego, sont sur une lancée. Les Mets sont dans l'Ouest, c'est jamais facile, mais là, les bâtons se sont tus soudainement. Il faut dire que c'était contre Seattle, qui a peut-être le meilleur personnel de lanceurs dans le baseball majeur. Mais bref, puis il y a d'autres équipes, San Francisco, qui ne vont pas trop mal, et Pittsburgh qui pourraient menacer. En somme, Marc, la situation des Braves est... en tout cas, très, très inquiétante. On a essayé de poser quelques diachylons, peut-être avec la recette de 2021. Ça colle pas autant, je te dirais, la recette. Le gâteau prend pas autant qu'il y a 3 ans.
Non, puis non seulement ça, Alain, mais lorsqu'on a été récupéré des solaires, des rosarios, là, pour... ouais, là, tu parles de joueurs qu'on est allé récupérer... ça s'est passé en 2021, là. Donc on est 3 ans plus tard, ces gars-là sont dans la trentaine. D'ailleurs, avec l'ajout des vétérans, les Braves se retrouvent parmi l'équipe, je pense qu'ils sont maintenant deuxième derrière les Cards de Saint-Louis, la plus vieillissante. Donc la plus vieille équipe, en fait, sur le terrain actuellement, alors qu'on sait fort bien que le cœur de cette équipe, ben c'est Acuna, c'est Albie, c'est Strider, alors, eux sont jeunes, ça va, mais on les a remplacés avec des vétérans et ça donne un résultat présentement qui est loin d'être convaincant.
Oui, Merrifield, on peut l'ajouter aussi, là. C'est un autre gars qu'on a ajouté là, puis qui n'a pas rajeuni l'équipe. Présentement, là, les Braves bon, feraient les séries, mais tu regardes là, il y a 4 équipes derrière qui sont à 3 matchs ou moins. Des Cubs qui commencent à mieux jouer. C'est pas de mauvaise équipe, les Cubs de Chicago. On l'a bien vu. La base est là pour être bon l'année prochaine, mais marque une série de victoires, ça pourrait les ramener. Les Giants surprennent, même s'ils ont rétrogradé leur releveur numéro 1. Il allait pas bien. Puis là, Saint-Louis, les Mets. Écoute, c'est sûr qu'on a subi des gros coups. Tu perds un candidat au trophée Cy Young, Spencer Strider. Tu perds un gars, joueur le plus utile à son équipe, Ronald Acuña, candidat. Ozzie Albies, qui est un joueur étoile. Michael Harris, Marc, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un autre régulier qui manque à l'équipe. Là, tu as le tiers du cœur de ta formation. On n'est même pas proche du rendement d'année passée de la part de certains joueurs. Je pense Austin Riley principalement. Dans le cas d'Olson, il va se rendre probablement 25-30 coups de circuit. Mais tu sais, dans une année comme celle-là, il faut que tes réguliers qui généralement produisent le fassent. Puis Riley, puis je pourrais acheter Sean Murphy, il a l'excuse d'avoir été blessé. Mais tu sais, ces gars-là auraient dû en donner un peu plus compte tenu là, de ces blessures-là. Puis au monticule, Marc, on a été sauvés par Reynaldo Lopez et Chris Sale, mais sur 6 mois, c'était en demandé beaucoup, je trouve.
Ben écoute, moi je trouve ça vraiment étonnant qu'au début du mois d'août, on se pose la question si les Braves vont faire les séries ou non. C'est pas des farces, alors qu'en début de saison... Ouais. C'était, selon moi, la meilleure équipe sur papier. Là. Bon, oui, les Phillies, oui, les Dodgers, mais selon moi, les Braves avaient la meilleure équipe. Alors, c'est comme si tout ce qui devait mal se passer s'est produit du côté des Braves. Et encore une fois, des blessures importantes. Et tu l'as dit, des joueurs qui n'ont pas donné le rendement peut-être souhaité. Blessures à des lanceurs à des moments clés. Et là, tu sais, Alex Antopoulos, je pensais qu'elle allait bouger un petit peu plus, compte tenu, bon, de la perte de Strider, la perte d'Acuna. On a, de toute évidence, pas voulu sacrifier ce qui se passait au niveau des ligues mineures, du réseau de filiales. La situation, là, je vais te dire, là, c'est... Je vais te répondre ça en une situation, Alain, dans le fond. C'est lorsqu'on est allé chercher Merrifield pour se dire, bon, ça va nous donner un petit coup de main, alors que son premier exercice sur le terrain, Merrifield se blesse. Il avait même pas joué un match encore. Ouais. Et là, tu as vu Brian Snitker, le gérant, qui a dit, c'est à peu près ça, notre saison. Tu sais, c'est comme, tu as l'impression... Je veux pas qu'on sente qu'on est des victimes, là, tu sais, dans le sens que encore des blessés, puis encore si, parce que ça arrive à bien des équipes. Mais c'est une situation hors norme là, du côté des Braves.
Bon, on va parler des Phillies de Philadelphie, Marc. Depuis la pause du match des Étoiles, ça va pas bien. C'est pas compliqué. Il y en a plusieurs qui relevaient le fait qu'on a eu un calendrier très favorable en première moitié de saison. Je regardais la fiche des Phillies contre les équipes en haut de 500. C'est correct. On est au-dessus de 500 avec un bon rythme. Mais c'est un fait, Marc, qu'effectivement, les adversaires, on voyage plus. Les adversaires sont plus coriaces. On est défié davantage, puis on ne semble pas répondre comme une équipe championne chez les Phillies face à l'adversité.
Ben, écoute, les saisons sont longues. On va se le dire, là, les saisons sont longues, puis c'est pas anormal qu'on tombe dans un passage à vide. Mais c'est vrai que le vrai test, puis on le prévoyait, avec un calendrier qui était un petit peu plus difficile, bon, comment les Phillies allaient réagir? Je regarde leur dernière série face aux Diamondbacks. Écoute, deux matchs, là, les deux derniers matchs de la série, on s'est fait marquer plus de 11 points. Donc là, c'est alors soudainement, tu frappes pas, puis là, tu te mets à frapper, mais oups, la relève. Fait que c'est un tout. Je m'inquiéterais moins des Phillies que des Braves d'Atlanta, par exemple. Mais parce que compte tenu du fait que... Ouais. On a des Harper, on a des joueurs, évidemment, des vétérans. On a passé par là, ça a été difficile, surtout les débuts de saison au cours des dernières années, alors qu'on s'est repris par la suite. Mais on est passé par là. Alors moi, j'ai l'impression qu'on va trouver une solution. On s'est forgé une belle avance dans la division. Je pense qu'on va la conserver. On va puis on va retrouver nos moyens éventuellement. Il y a beaucoup trop de talent. Les gars sont en santé. On a les éléments sur papier pour le faire. Moi, je suis beaucoup moins inquiet du côté des Phillies.
Ouais, écoute, moi aussi, là, en raison de l'avance qu'on s'est forgée en première moitié de saison, c'est juste que, bon, on a quand même quelques semaines pour retrouver le droit chemin là, chez les Phillies. Bon, dans le cas de Suarez blessé, là, on est en train de tester la profondeur qu'on avait vantée en début de saison. Walker est aussi blessé. C'est la même chose avec Turnbull là, qui avait commencé la saison avec l'équipe qui avait quand même bien fait. On teste un petit peu la profondeur. Moi, je suis un petit peu inquiet du rendement à l'attaque de certains gars. Alec Baum, c'est correct en début de saison. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait une régression qui s'en venait, qui pourrait pas tenir le rythme pendant la saison complète. Ça fait que jusqu'à quel point cette équipe-là est aussi profonde qu'on le pense à l'attaque? Moi, c'est vraiment l'interrogation que je me fais.
Ben, je sais pas si on. Tu sais, parce que. Tu sais, je veux dire, t'as Trey Turner, t'as Bryce Harper, t'as Kyle Schwarber, t'as JT Realmuto. Il n'y a pas de mauvais joueurs là-dedans. Là, c'est des joueurs qui ont... Je comprends que tu parles d'Alec Baum, puis je comprends qu'il est une surprise. D'ailleurs, il mène encore l'équipe pour la moyenne au bâton, des points produits. Mais pour commettre des bonnes saisons, ça te prend des surprises ou ça te prend des joueurs qui ont peut-être performé au-delà des attentes. Alors, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je pense que on va être à mesure, là, tu sais. Quand ça va compter, je pense que les Phillies vont être là. C'est ce que je veux dire, là, c'est que, tu l'as dit tantôt, on avait la même discussion, Alain, on est quoi aujourd'hui, là? On est le 12 août. Si on était le 12 septembre, j'aurais peut-être pas le même... Tu sais, les mêmes propos, là. Je me dirais, bon, là, écoute, on est à deux semaines des séries, là, il va falloir tourner. Mais on est quand même, donc, à 6-7 semaines des séries. Moi, je pense qu'il y a encore du temps pour les Phillies. Mais, ceci étant dit, ils ont ce fameux défi de calendrier. Ce n'est pas le calendrier le plus facile d'ici la fin de la saison. Alors, ça sera à eux là, de jouer du baseball peut-être un petit peu plus convaincant. Mais je pense qu'avec le nombre de vétérans, ça va permettre à cette équipe-là de se stabiliser et d'être prêt pour les séries.
Oui. Écoute, Marc, brièvement, en fin de semaine, j'étais à Minneapolis et tu comprends que, bon, les Twins, ils sont, bon, sont impliqués dans la course pour le test en série. En fin de semaine, série 4 matchs contre Cleveland. On en parlait énormément dans les médias de Minneapolis. Ça a bien commencé pour les Twins. En fait, on se serait rapproché davantage si on avait pu gagner au moins un des deux derniers matchs de la série. On a balayé le double vendredi avant de se faire battre deux fois par Cleveland. Donc, on revient à la case départ. Cleveland là, qui carbure encore avec ses trois gars à l'attaque. Du côté de Minnesota, par contre, Marc, on a perdu Joe Ryan. Tu sais, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que Kansas City va pas être capable de se faufiler à travers ces équipes-là? En tout cas, brièvement, Marc, je ne sais pas ce que tu en penses. Je trouve Cleveland vulnérable, mais les autres équipes ont leurs défis aussi. Mais si Kansas City gagne, conserve leur partant en santé, attention.
Bon, plusieurs choses dans tes propos. Premièrement, pour Kansas City, absolument. D'ailleurs, ouais. Si tu regardes le différentiel des trois équipes, ils ont le meilleur différentiel. Alors ça veut dire que Kansas City est à surveiller. On parle beaucoup effectivement des Twins et des Guardians. L'autre point, tu vois à quel point c'est difficile d'aller chercher, soit de gagner du terrain, soit de rattraper donc une équipe ou de s'éloigner des autres. Alors que là, on avait cette série de quatre entre les deux, puis ça s'est fini nul 2-2. Donc on a tout ça pour rien finalement. On n'a pas gagné de terrain. Tu sais, du côté des Twins pour se rapprocher, puis les Guardians se sont pas éloignés. Donc, même s'il y a beaucoup de matchs encore à la saison régulière, c'est pas facile d'aller chercher, par exemple, si on est de trois matchs ou trois matchs et demi derrière. Alors, faut vraiment jouer de la bonne balle. Mais le point que je veux souligner là-dedans, c'est qu'effectivement, on parle de cette série Twins-Guardians, les Guardians qui tiennent le coup. Ils ont plein de belles choses encore dans cette équipe. Mais les Royals derrière, c'est cette équipe-là qui me ferait peur si j'étais les deux autres. Écoute, ça lâche pas. Il y a l'air d'avoir une espèce d'inspiration dans cette équipe-là, une détermination qui est fort impressionnante, je vous dirais. Je savais qu'ils avaient. D'ailleurs, Alain, bravo, tu avais prévu là, une saison remarquable de la part des Royals. Ouais. Et c'est le fun que ça se poursuit et qu'ils sont encore dans la discussion au mois d'août. Là.
Mm-hmm. Écoute, je prévoyais pas que ce soit à ce point-là. Honnêtement, là, si tu me disais, est-ce que j'avais prévu qu'il aille en série? Non. Mais je voyais ce qu'ils avaient fait je voyais ce qu'ils avaient acquis comme lanceur, puis moi je trouvais ça intéressant. On avait déjà Senior et Reagans. Donc, mais tu sais, Reagans, il n'y a rien qui garantissait qu'il était pour poursuivre sur ce qu'il avait fait l'année passée. Wonka blessé souvent. Lugo, sur le long terme, oui, j'aimais son étoffe, mais il y avait quand même plusieurs points d'interrogation. Et encore à l'attaque, Marc, il y a des défis de ce côté-là. Mais enfin, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. C'est temps de la question de la semaine, qui est une présentation de Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. On vous invite à consulter le www.sylmar.ca. La question, elle est fort simple. Est-ce que les Braves vont résister à la poussée des autres équipes et feront-ils des séries? Envoyez vos commentaires à propos de cette question qui paraît sur facebook.com/compte-complet-balado ou encore sur notre site internet compte-complet.com.
Je vous rappelle notre commanditaire principal, le plan de match, magnifique boutique à Boucherville, boutique de baseball évidemment, donc tous vos besoins en équipement. La boutique en ligne également est disponible. Cage de frappeurs, cours privés, c'est la totale, donc plan de match.com. On les remercie d'ailleurs de leur support. Et je vous rappelle aussi, le meilleur moyen en fait de nous rejoindre ou de nous écouter ou avoir des renseignements sur ce balado, allez visiter notre site internet www.comptecomplet.com.
Marc, on va parler un peu des Blue Jays et de la poussée offensive de Vladimir Guerrero. C'est assez spectaculaire ce qu'il a réalisé. Pendant nos reportages et tout ça, depuis deux semaines, tu l'as mentionné, on semble revoir le Vlad Guerrero de 2021.
Oui, écoute, honnêtement, il est spectaculaire. C'est vraiment, mécaniquement, il a l'air plus à point, des élans qui sont plus courts. On semblait vouloir voir Vlad... tu sais, viser la clôture, puis il n'y avait pas les résultats pour. Son élan était donc plus long. Faut pas oublier qu'il faut créer de la vitesse avec notre bâton. Alors, plus on force, moins on est rapide. Puis là, on a l'impression qu'il a compris ça. Il est vraiment redevenu le Vlad de 2021 actuellement. Ça tombe bien parce que devient joueur autonome en 2025. Et il va falloir que les Blue Jays, Alain, se positionnent. Qu'est-ce qu'on fait avec Vlad? Est-ce qu'on le met sous contrat à long terme? Ouais. Est-ce que c'est lui sur qui on compte pour les prochaines années? La manière dont il joue là, je vais te dire une chose, si les Blue Jays disent « Non, on n'est pas certain, on va perdre Vlad là, après la saison 2025 parce que ce gars-là démontre... » Tu sais, il avait mis la barre haute en 2021. C'est pour ça qu'on était toujours un petit peu, pas déçus, mais on pensait qu'il allait pouvoir nous offrir ce genre de statistiques-là année après année. Là, je vais vous dire une chose, c'est vraiment impressionnant la façon dont il s'est démarqué au cours des dernières semaines et même des derniers mois pour devenir le frappeur intense. Là, vous allez me dire, ouais, c'est trop tard, les Blue Jays sont plus dans la course. Je comprends ça, mais même si Vlad avait frappé de même depuis le début de la saison, ouais, ça prend d'autres là, derrière. Mm-hmm. On ne peut pas juste se fier à lui. Donc, très impressionné, moi, par ce qu'il a fait au cours des derniers matchs.
Et je peux même ajouter quelque chose, Marc. L'an passé, j'avais relevé le fait que Guerrero, au bâton, malgré une baisse de production, avait été celui qui avait le plus aidé les Blue Jays de Toronto dans leur quête pour une place en série, ce qui a été le cas éventuellement. Et cette année, j'ai regardé deux choses. Le WAR offensif, donc ça ne tient pas compte de la défense. Et actuellement, il est septième dans la Ligue américaine. Je ne te demanderai pas de savoir qui est le premier, on le sait tous. Et en plus, il est parmi les 10 premiers pour la probabilité de gagner, d'avoir aidé son équipe dans un contexte, Marc, où il n'y a pas nécessairement beaucoup de gars sur les buts devant lui. Donc, ce que je veux dire, c'est que Vlad, malgré le fait qu'on n'a pas eu le même rendement depuis 2021, tout n'a pas été noir depuis cette période-là. Vlad, dans les moments importants, ça a encore été le meilleur chez les Blue Jays de Toronto, puis par une bonne marge, puis même, j'irais jusqu'à dire qu'il est tout près de l'élite, en fait, même, à mon sens, il l'est, là. Mais, tu sais, compte tenu, bon, qu'on a Judge, Soto, Devers, puis on dit, ah, il n'est pas de la même catégorie. Non, non, son WAR offensif est au niveau de Raphaël Devers, en fait, si on veut comparer, là. Devers ayant l'avantage de jouer dans un stade qu'il favorise.
Ben, écoute, c'est 162 matchs, on en a parlé tantôt, les saisons sont longues, ça n'a pas été un bon début, pour l'équipe et pour lui en termes de puissance, mais là, il rattrape le temps perdu. Et moi, je pense que, tu sais, je regarde la situation des Blue Jays, Alain, je regarde le réseau de filiales, ce qui se passe après la saison prochaine. Ça peut être des années plus difficiles. Alors, si on met sous contrat un Vlad Guerrero pour montrer un peu notre sérieux, peut-être qu'on va tirer d'autres joueurs autonomes éventuellement, mais il va falloir poser un geste éventuellement là, du côté des Blue Jays de Toronto vis-à-vis Vlad Guerrero, qui semble être le visage de l'équipe. Et là, bien, il est en train de le prouver. Il semble se plaire à Toronto, même si on l'envoie en arbitrage en début de saison, même si la saison est difficile. Je pense que c'est sur lui que tout le monde regarde et s'appuie pour la suite des choses.
Bon, Marc, rapidement, les White Sox de Chicago, on en a parlé lors de notre dernier balado récemment. Même avant la séquence de 21 défaites, là, désastre annoncé. Dans ce cas-là, on a congédié Pedro Grifol, on a congédié Charlie Montoyo, qui était son adjoint, et deux autres instructeurs. Il y en a qui ont relevé le fait qu'on a relevé de leur fonction les 4 instructeurs latino-américains. Je ne sais pas s'il y avait des fictions, des factions, c'est-à-dire à l'intérieur du vestiaire. C'est pas impossible, Marc. Quand ça arrive, il faut que tu fasses le ménage. Toujours est-il que là, c'est Grady Sizemore qui était au deuxième étage. Je ne sais pas si ça fait partie de ses ambitions d'être le gérant. Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un descend en haut pour venir en bas. Dans le baseball d'aujourd'hui, ça se fait. Où il est là seulement pour juger, de voir comment ça se passe sur le terrain, pour évaluer. Mais toujours est-il, Marc, ça remet encore en question le fait qu'on n'ait pas échangé Gavin Crochet et Louis Robert dans ce qui est un marasme total pour les White Sox.
Ouais, écoute, c'est vraiment du côté des White Sox, c'est difficile à suivre. Je vais te dire une chose, Alain. lorsque tu connais des saisons de misère comme les White Sox, c'est, tu sais, on va même blâmer la mascotte, là. Tu comprends, là? C'est que tout le monde, c'est la faute à tout le monde. Tu sais, c'est tout le monde, n'a pas fait son travail. Alors, dans ce cas-ci, je pense qu'on y va de la voie facile. On congédie tout le personnel d'entraîneur. Il faut sauver la face quelque part. Faut commencer quelque part. Alors, j'ai l'impression qu'on s'est dit, bon, OK, on recommence à neuf avec un nouveau personnel d'entraîneur. C'est pas fou, dans le cas de Grady Sizemore, de venir évaluer qu'est-ce qui se passe. Puis moi non plus, je connais pas les ambitions de Grady Sizemore. Il a été un bon joueur. Mm-hmm. Est-ce qu'il avait les atouts pour devenir un géant? Bon, peut-être l'avenir nous le dira à ce moment-là. Mais on a utilisé la voie facile. On n'a pas échangé Crochet, on n'a pas échangé Louis Robert, mais on congédie tous les entraîneurs. Donc, c'est comme ça dans le sport. C'est la première étape là, de peut-être différents gestes posés éventuellement. Mais moi, ça va m'en prendre beaucoup pour me convaincre qu'on repart la machine dans la bonne direction du côté des White Sox.
Oui, deux anciens expos en passant là-dedans, Grady Sizemore et Doc Sisson, qui a été instructeur dans l'organisation des expos dans le passé. Marc, je vais te parler de mon congrès, parce qu'il y a des sujets qui ont été abordés puis sur lesquels je veux qu'on échange. Et je veux qu'on, d'abord parler, puisqu'on parle des équipes et de l'actualité, de la situation des A's d'Oakland, pas sur le terrain, mais à l'extérieur du terrain. Il y a eu une présentation qui a été faite, qui a tracé un historique, si tu veux, des A's et des Giants à San Francisco, autrement dit, du marché de la baie de San Francisco. Ce qu'il a maintenu, c'est que, bon, c'était une économie unidimensionnelle quand San Francisco est arrivé là, c'est-à-dire c'est une ville portuaire, puis c'est strictement ce qu'il y avait. Ça a changé au fil du temps, de sorte que selon son évaluation, et là on parle évidemment de l'évolution de la population et de l'économie, c'est pas avant la fin des années 80 que le marché était vraiment en mesure d'accueillir deux équipes. Bon, on parle pas de Los Angeles, on parle pas de New York puis de Chicago, mais on parle d'être capable de le faire. La situation a changé un peu depuis ce temps-là. Là, on connaît la situation actuelle des A's d'Oakland. Et la présentation, ce qu'on laissait voir, c'est que dans le fond, les A's, bon, c'est clair que le propriétaire veut déménager. Par contre, sans pas d'avoir de plan établi. Là, on a parlé de Las Vegas, Marc, mais il n'y a rien de fait. On ne sait même pas quand est-ce qu'un stade va être prêt. Il n'y a pas de terrain. Il n'y a rien qui a été fait, là, malgré l'annonce. Et ce que le présentateur disait, c'est que dans le fond, s'il y avait une logique, ben il y aurait deux équipes dans la région, mais les A's ne seraient pas à Oakland, ils seraient à San Jose, là où tout se passe économiquement dans le nord de la Californie. C'est là où est l'argent. D'ailleurs, il y a des équipes qui ont déménagé là. Tu sais, les 49ers, officiellement, c'est les 49ers de San Francisco, mais ils sont dans la région de San Jose. Les Sharks sont là. Bref, le bouillonnement économique actuellement, là-bas, dans ce coin-là, c'est à San Jose que ça se passe. Et s'il y avait une logique, les A's, c'est pas à Las Vegas qu'ils partiraient, c'est à San Jose. Donc, de dire qu'il y a une équipe qui va aller à Las Vegas, pour le moment, selon le présentateur, et bon, dont le travail a été exemplaire là, et rigoureux, ben c'est loin d'être fait qu'on va partir à Las Vegas au moment où on se parle. Mais on veut partir d'Oakland, ça c'est clair.
Oui, ben écoute, ben d'ailleurs, on va partir d'Oakland, on va se retrouver à Sacramento au cours des trois prochaines années. C'est vrai que c'est un dossier. Moi, ça me fait penser beaucoup au dossier des expos. Le dossier, rappelle-toi, où là, on faisait jouer des matchs des expos à Porto Rico. Ouais. Tu sais, on n'a pas priorisé les moi, je trouve que le baseball majeur, tant qu'à mettre de l'argent ou tant qu'à mettre des efforts dans une relocalisation, tu sais, pourquoi on rentre pas dans l'organisation même, tu sais, que le baseball, je sais que c'est, bon, chaque organisation est privée puis tout ça, mais il y a 30 équipes dans le baseball. On est-tu capable de rentrer dans celle des A's pour dire, ben, écoutez, là, voici, là, quelle est la meilleure solution, quelle est la meilleure possibilité pour le baseball majeur de réussir? Est-ce que c'est à Sacramento? Est-ce que c'est à Vegas? Est-ce que c'est à San Jose? Mais tu peux pas laisser traîner un dossier de même, comme on l'a fait depuis des années avec les A's. Là. Je veux dire, c'est pas bon pour le baseball majeur, c'est pas bon pour les joueurs, c'est pas bon pour personne. Alors moi, je suis pas surpris, Alain, que tu me dises que c'est pas un marché qui pourrait soutenir deux équipes. Même si, rappelle-toi, tu as parlé de la fin des années 80, ben on a eu la fameuse série mondiale A's Giants, qui était, bon, à une époque où financièrement tout semblait bien fonctionner, mais je suis pas surpris d'entendre qu'Oakland, c'est plus difficile. Maintenant, je suis surpris quand même que San Jose serait la solution, parce que c'est quand même proche, là, San Jose et San Francisco. On est proche, mais je comprends que l'argent est à cet endroit-là. Tout ça pour dire qu'il faut... Tu sais, le commissaire, là, ça fait partie de son travail, c'est de s'assurer qu'on stabilise les franchises, tu sais, qu'il n'y ait pas de franchises qui tirent de la patte, autant financièrement que même au niveau de la popularité du sport. Je pense qu'Oakland va falloir mettre un petit peu plus d'efforts encore, parce que moi, je suis pas convaincu là que ça va faire wow d'aller à Sacramento au cours des trois prochaines années. Là.
Non, sûrement pas. Sacramento, qui est au nord-est de San Francisco, San Jose, tout juste au sud. Ce sera un dossier à suivre. Juste pour terminer sur ce plan-là, le propriétaire, en fait, semblait pas avoir envie de demeurer à Oakland, mais semblait pas avoir de plan non plus, à savoir qu'est-ce que je vais faire. Et même selon notre présentateur, là, qui, bon, selon lui, ce serait pas surprenant que les A's soient vendus, même avant le transfert annoncé à Las Vegas. Je dis bien annoncé parce que c'est pas encore fait. Bon, c'est le temps de la carte de la semaine, qui est une présentation de card-union.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 14 000 articles en vente sur eBay. On va arrêter notre dévolu sur Jesse Chavez. Pourquoi lui? Ben, écoutez, on n'a pas fait de balado la semaine dernière, mais c'était notre balado régulier après la période de transaction. Et Jesse Chavez est un des joueurs, sinon le joueur, qui s'est fait échanger le plus souvent au cours de sa carrière. Je parle même pas des fois où il a été libéré et embauché comme joueur autonome. C'est peut-être le joueur favori d'Alex Antopoulos, en plus, parce qu'on compte pas le nombre de fois où les Braves d'Atlanta l'ont ramené dans le giron. Bon, Jesse Chavez est dans le baseball majeur depuis 2008. A joué avec 9 équipes. C'est avec les Braves qu'il a joué le plus souvent. C'est pas là où il y a eu le plus de manches, avec les A's d'Oakland, parce qu'il a lancé là comme partant. Bon, il y a avec les Angels qui a fait quelques séjours aussi. Jesse Chavez, 17 ans dans le baseball majeur, c'est un exploit absolument remarquable pour quelqu'un qui lance pas à 90 000 à l'heure. Et pourquoi lui? Ben écoutez, c'est... Regardez la carte qu'on vous présente là. Tops Chrome utilise les mêmes images, bon, pour la conception des séries régulières, mais c'est du papier chromé qu'on a utilisé pour créer des produits haut de gamme. Ça fait, bon, près de 30 ans, depuis 1996. Puis, au verso, ben, de la carte de Jesse Chavez, on marque les changements d'équipe qui sont innombrables. En fait, dans son cas, peut-être élargir un peu la carte, là. Ben, je pense qu'il n'y a pas assez d'espace pour lui. Donc, Marc, j'aimerais que tu parles un petit peu de... Moi, je trouve que c'est un exploit que ce gars-là soit encore dans le baseball majeur. J'ai vu son camp d'entraînement, le début de son camp d'entraînement avec les White Sox de Chicago. C'était épouvantable. Un gars qui n'a pas été capable de faire l'équipe avec les White Sox, surtout avec les Braves d'Atlanta. C'est quand même tout... Je pense que cette saison résume un peu la carrière de Jesse Chavez.
Ben, moi là, tu sais, un des critères que j'aime beaucoup évaluer, c'est la constance sur une longue période de temps. C'est là que je trouve qu'on sépare vraiment les bons joueurs, les excellents aux autres. Mais moi, ce que j'aime dans le cas de cette carrière-là, oui, c'est la longévité, c'est le fait d'avoir été efficace longtemps, mais encore une fois, je reviens souvent à ça, mais c'est pas un gars qui a un physique imposant. Tu sais, on parle, lui, de à peine 6 pieds, 180 livres. Donc, dans le baseball aujourd'hui, on ne regarderait même pas un Chavez comme ça. On l'ignorerait, il ferait même pas partie des plans d'une organisation. Et pourtant, il a été dans le baseball majeur pendant près de 20 ans. Alors, je me répète souvent quand on parle de ce sujet-là, mais... Je pense que les équipes font fausse route encore dans le baseball moderne, alors qu'on se fie uniquement sur le physique, alors que t'es un gars, là, ça va pas autant de la renommée, là. Mais il a une carrière extraordinaire, il a aidé bien des équipes, il a développé une balle glissante, il a développé des choses, puis il a été efficace au cours de sa carrière. Donc, moi, c'est ça qui m'impressionne le plus, là, dans son cas. Puis c'est le message aussi que, garde, même si t'as pas un physique imposant, tu lances... Avec intelligence, tu lances avec précision, tu développes des tirs. Tu peux avoir une belle carrière dans le baseball. C'est le moment de notre segment Baseball de Québec. Ben, on entre dans la période où il y a eu beaucoup de championnats provinciaux. Il y a des championnats canadiens qui se déroulent. D'ailleurs, au cours du dernier week-end, il y avait ce qu'on appelle la Canada Cup. Alors, ça regroupe les meilleurs 17 ans de chacune des provinces. Le Québec a perdu en finale. Donc, un très beau tournoi pour le Québec, représenté par l'Académie de baseball du Canada. Et se sont avoués vaincus contre la Colombie-Britannique, mais un très, très beau tournoi. Encore une fois, allez sur le site de Baseball Québec pour connaître, en fait, les différents championnats canadiens ou québécois et ceux qui l'ont emporté. D'ailleurs, Laval va recevoir les championnats canadiens au cours du 22 au 25 août. Alors, c'est sur les terrains de baseball de Laval, les meilleurs 15 ans et moins, donc les 14-15 ans, entre autres, ou les plus anciens, la catégorie Bantam. Donc, on va se retrouver à Laval. Alors, bonne chance aux organisateurs. C'est pas toujours évident d'organiser un championnat canadien. Ce sera pour une deuxième année consécutive pour cette organisation. Donc, on leur souhaite la meilleure des chances. Et je vous rappelle, là, on commence à entrer... on est à la fin de la saison. Le fameux moitié-moitié de Baseball Québec... En fait, allez sur labaldor.com pour acheter vos billets. Alors, c'est un moitié-moitié, un 50-50 si vous préférez. Tout au long de la saison, il y a d'excellents prix, en plus du prix en argent. Et Baseball Québec, évidemment, qui... vous savez, tout cet argent-là récupéré, ça permet justement à des équipes, par exemple, qui font les championnats canadiens, les joueurs qui ont été sélectionnés, ben c'est pas tout le monde qui a les moyens de se rendre là, parce qu'on demande aux joueurs aussi une contribution. On veut plus demander de contribution aux joueurs. Alors, on veut éventuellement avoir des montants d'argent suffisants. Alors, moitié-moitié sert justement parfois à des choses comme ça et à bien d'autres programmes, autant pour les débutants que pour les joueurs qui s'en vont au championnat canadien. Donc, allez sur labaldor.com et achetez vos billets.
Bon, Marc, on va continuer sur ce fameux congrès à Minneapolis qui a lieu... Écoute, il y a eu différents panels. Il y a eu un panel de frappeurs au cours desquels on a pu entendre Tony Oliva et Rod Carew. Et il faut que je te raconte l'anecdote que Rod Carew nous a racontée, juste pour te donner une idée de ce que les joueurs, leur préparation. C'est que Rod Carew avait un petit cahier noir dans lequel il prenait beaucoup de notes. Et là, il frappait à volonté Catfish Hunter des Yankees de New York. Et Herman Munson, à un moment donné, lui demande, « Bon, tu regardes-tu mes signes, toi, là? » Il dit non. Il dit, je connais Catfish Hunter, je connais ses tendances. Fait que là, il est au bâton, puis là, pendant qu'il fait son élan, Rod Carew dit à Herman Munson qu'il s'en vient. Tu sais, rapide à l'intérieur. Bon, c'est exactement ce qui s'en vient. Là, il arrive, deuxième lancé, encore une fois, le tir, je ne me souviens pas exactement ce que c'était. Et là, Herman Munson lui dit, il dit, là, tu regardes, il dit, tu sais que le prochain lancé, là, ça va être haut à l'intérieur, hein? Carew dit, fais ce que t'as à faire. Carew s'installe, là, Catfish Hunter fait son élan, et Carew dit, balle effet, coin extérieur, double au champ gauche. C'est exactement ce que t'as
dit. Ben, voyons donc!
Herman Munson lui avait... Oui, Herman Munson lui avait tendu un piège. Carew, écoute, les gars se respectent quand même minimalement. C'était trois vétérans qui étaient là depuis un petit moment. Et Carew s'est retrouvé au deuxième à la suite. Puis c'est après ça qu'ils ont échangé, puis que Herman Munson lui a demandé, « As-tu vraiment un cahier? » Oui, oui. Puis il lui a montré un petit cahier noir. Bon, mais Munson, je pense que je vais m'en acheter un. Donc, évidemment, pas celui de Rod Carew. Mais, écoute, c'était très amusant. Rod Carew qui, honnêtement, a été très généreux. Le fait saillant, par contre, c'était le panel des lanceurs. Et là, je vais te nommer les quatre qui étaient là. Il y avait Bird Blylevin, il y avait Jim Cott, il y avait Glenn Perkins, qui vient du Minnesota, en fait, et qui était releveur numéro un. Rappelle-toi, Marc, le match des étoiles qu'on avait fait à Minneapolis, c'est lui qui avait terminé le match pour la Ligue américaine. Et on avait Troy Hawkins. Les quatre ont joué pour les Twins. Les quatre sont encore actifs comme analystes à la télé. Et écoute, c'était vraiment super. Jim Cott qui a parlé de l'importance de transmettre le savoir. Tu sais, il parlait de ses débuts dans le baseball majeur à la fin des années 50, puis à sa deuxième année, il savait pas, bon, exactement, il voyait White et Ford, puis il avait le coup d'aller lui parler, puis il a eu le grand moment donné d'aller le voir. Puis tu sais, White et Ford, qui était quand même un vétéran là, qui était établi dans le baseball majeur, puis là, il est allé le voir parce qu'il voulait savoir un petit peu comment sa balle tombante, comment ce qu'il faisait pour... Et finalement, White et Ford, au lieu d'envoyer promener, il a été très généreux. Puis c'est ce que Jim Cott il disait. Il dit l'importance de transmettre le savoir. Tu sais. Et là, bien évidemment, dans la génération la plus récente avec Glenn Perkins, qui disait, bon, il dit avec les informations qu'on a aujourd'hui, il dit, moi, quand je suis arrivé, il dit, mon instructeur des lanceurs m'a dit, regarde, là, il dit, T'as mal courbe, là. Il dit, ça vaut pas grand-chose. Il dit, dans une zone de balle glissante. Puis il dit, puis effectivement, il dit, avec les connaissances qu'on a, il dit, avec les vidéos puis tout ça, ben au lieu de prendre 3, 4, 5 semaines avant de maîtriser ma balle, ça a pris une séance au monticule d'exercice, puis c'était fait. C'est comme ça que je suis devenu releveur numéro 1. Par contre, Marc, là où j'ai le goût de t'entendre, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un débat entre Jim Cott et LaTroy Hawkins. LaTroy Hawkins défend les informations qui sont disponibles pour les lanceurs. Là même, moi, j'aurais aimé ça avoir ces informations-là, alors que c'est connu que Jim Cott, c'est pas un gros fan de la façon de faire aujourd'hui. Tu sais, les défenses adaptées, lui, là, disons qu'il l'a à travers la gorge. Il s'en est jamais caché. Bon. Il aimait placer lui-même ses joueurs en défense, il l'a dit. Il dit, moi, mes voltigeurs, là, je voulais pas que... je voulais déséquilibrer les frappeurs, puis le petit ballon par-dessus le deuxième but, je voulais pas qu'il tombe. Je voulais que mes voltigeurs jouent proche, puis je leur disais, si ça passe par-dessus votre tête, ben c'est de ma faute. Ceci étant dit, Jim Cott, et là, commençait à parler, et là, il parlait de lancer selon le score, puis lui... Ce que Jim Cott mentionne dans le baseball moderne, tu l'as dit souvent, Marc, lancer une balle rapide, tu sais, lancer une balle rapide dans un compte de balle rapide, ça n'existe plus aujourd'hui. Puis Jim Cott disait, lancer selon la situation, il dit, pourtant, ça s'enseigne, puis tout ça. Puis LaTroy Hawkins disait, non, il dit, j'ai pas d'affaire à lancer une balle rapide en plein centre, même si c'est 5-0 en huitième, je veux garder ça 5-0, moi. Donc, écoute, ça a duré pendant plusieurs minutes et les deux avaient des bons arguments. J'aurais aimé enregistrer le tout, c'est probablement disponible sur le site du Congrès, mais j'aimerais ça avoir ton idée là-dessus, Marc, parce que les deux avaient raison en quelque part. Tu sais, LaTroy Hawkins qui dit, moi, je veux garder ça 5-0, je n'ai pas envie d'accorder deux points, puis de lancer ce qu'il appelle un fat pitch, autrement dit, une balle rapide en plein centre que le frappeur pourrait expédier de l'autre côté. J'ai le goût de t'entendre là-dessus, Marc, même si, bon, on n'est pas dans l'énergie du débat, mais c'était vraiment, c'était fascinant de les entendre tous les deux.
Ben, écoute, oui, je peux facilement imaginer une discussion de la sorte. Bon, quel âge a Jim Cott, Alain?
Il est dans les 80, puis je peux dire qu'il est encore très en forme, là, puis tu sais, il n'y avait aucune hésitation dans sa façon de s'exprimer.
Bon, écoute, moi, je trouve ça fascinant. J'aime ça, ces débats-là, parce que, tu sais, je veux dire, le baseball reste un des sports, qui a évolué beaucoup en termes, de technologie, mais ça reste un bâton de bois, ça reste une balle, tu sais, la stratégie, oui, la philosophie a peut-être changé un peu, mais ça reste quand même... que ce qui s'est fait dans le passé peut servir encore et ce qui se fait aujourd'hui peut certes aider. Tu sais, on peut marier donc les générations pour que ça fonctionne bien. D'ailleurs, tu sais, on s'est souvent parlé, Alain, qu'on peut effectivement prendre toute l'information qu'on a, mais combiner un petit peu à notre expérience baseball ou ce que, excusez l'expression, mais notre gut feeling, puis prendre des décisions à ce niveau-là, et non tout un et tout l'autre. Alors, c'est pour ça que Jim Cott, dans la génération où il a joué, il a été très bon, il est analyste depuis, donc il a évolué probablement un peu avec le baseball à ce niveau-là, mais moi, là, j'ai jamais été un lanceur. Donc, je peux pas vous dire que je suis dans la tête d'un lanceur, mais ma philosophie, moi, serait que je vais essayer de retirer le frappeur dans le moins de tirs possible. Je sais que le retrait sur des prises, c'est le fun. Ça doit être le fun d'être un lanceur, Alain, puis de lancer à des vitesses folles, puis voir le gars s'élancer dans le vide. J'ai pas de problème avec ça. Mais j'aime mieux la philosophie du gars dire, ben un, je veux pas me retrouver dans un compte de 3-1, justement pour être obligé de lancer une bonne vieille balle rapide en plein centre pour essayer de... moi, tu sais, j'aime la philosophie un petit peu plus des années... peut-être quoi, 90, fin des années 80, où, tu sais, je veux lancer un match complet. Je veux, tu sais, je suis capable de te retirer sur deux lancers, je vais le faire. Mais là, aujourd'hui, on lance, c'est quoi la moyenne, Alain, par frappeur? J'ai l'impression que c'est 4 ou 5 lancers. Donc...
On est à peu près à quatre.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux plus vraiment lancer à partir de la sixième manche. J'ai 90, 95, 100 lancers. C'est ce que j'aime un petit peu moins des lanceurs aujourd'hui. Tu sais, on a tombé encore une fois en amour avec la puissance. On veut retirer tout le monde sur des prises. Je comprends tout ça, mais si j'étais lanceur ou si j'enseignais à des jeunes de lancer, là, je parle des jeunes de 17-18 ans, là, pas des jeunes de 7 ou 8 ans, là, mais dans la philosophie de lancer, moi, j'irais plus dans cette option-là. Donc, tu sais, moi, je serais un petit peu plus vieux jeu. Je serais un peu plus comme Jim Cott. OK, 3 et 1, je me suis retrouvé dans cette situation-là. Je vous dis pas de lancer une rapide en plein centre. Mais est-ce que je vais lancer une courbe à 3 et 1? T'sais, moi, ça serait pas ma philosophie. Moi, je me suis retrouvé dans ce compte-là, je vais lancer une balle rapide, je vais viser le coin intérieur ou extérieur, là, dépendamment de la faiblesse du frappeur, là, mais je serais plus dans ces tendances-là, moi, que de dire, ben, regarde, je vais donner un but sur balle, il y a un gars, t'sais, je vais m'essayer avec une courbe, quitte à le rendre au premier but, puis je vais essayer de faire frapper le prochain roulant pour une balle à double jeu. Moi, je serais pas de cette philosophie-là.
Oui, bien écoute, je te dis, là, on pourrait continuer de débattre là-dessus, là, du côté de ces lanceurs-là. C'était vraiment fascinant de les entendre. Puis, Marc, comme je le mentionnais, il n'y en a pas un des deux qui avait tort.
Exact.
Tu sais, chacun avait des arguments qui se tenaient. Là. D'autres choses sur lesquelles j'ai porté mon attention, Marc, on a donné le prix Roland Aymon pour quelqu'un qui s'est démarqué dans le monde du recrutement. Et Bill Smith a reçu... travaille dans le domaine du baseball depuis une trentaine d'années, il a gravi tous les échelons en occupant tous les postes possibles et imaginables. Et moi, ce que j'ai retenu de son discours, lorsqu'il l'a retenu, bon, Roland Aymon, qui était dans le baseball professionnel pendant 70 ans, si on pourrait parler du fait qu'il aurait dû être directeur général des Expos, mais ça, c'est une autre histoire. Mais toujours est-il qu'il était très respecté, Roland Aymon. Est-ce que Bill Miller disait, il dit, même si, bon, Roland Aymon a fait beaucoup de choses pour les gens qui ne portent pas d'uniforme. Tu sais, Alex Agostino, là, s'il est bien traité par les Phillies, il y a un petit peu de Roland Aymon là-dedans. Et ce qu'il disait, c'est que il dit, le baseball a changé, puis il dit Roland Aymon serait fier de ce que le baseball est devenu, puis ceux qui n'ont pas été capables de s'adapter avec la réalité d'aujourd'hui, c'est bien dommage, mais si t'es pas capable de suivre la parade, ben t'es dépassé. Regarde, c'est carrément ce qu'il a dit. Et tu parles de quelqu'un là, qui est dans le baseball depuis longtemps. C'est pas un discours qu'on entend si souvent que ça, Marc. Des gens qui ont évolué, surtout dans le recrutement d'il y a 30 ans, et, qui pourraient en vouloir sur la façon moderne de faire les choses depuis Moneyball.
Ben effectivement, tu l'as dit depuis Moneyball. Le film ou le livre, peu importe si vous l'avez vu ou lu, indique très bien le changement de philosophie. Par contre, on est peut-être allé un petit peu trop loin, Alain. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le fameux, ce qu'on appelle l'Advanced Scout ou le dépisteur qui s'en va voir l'équipe qui va venir, par exemple, jouer 3 matchs chez vous. Là. À l'époque des Expos, si les Mets s'en viennent pour une série de 3, ben les Expos envoyaient un dépisteur voir les Mets. Qu'est-ce qui se passe avec les Mets actuellement? Alors qu'on suit uniquement aux chiffres aujourd'hui, je pense qu'il pourrait y avoir une tendance que ça pourrait revenir. Et ça, j'aimerais ça. C'est pour ça que le mariage... Je comprends qu'il faut évoluer. J'ai pas de problème, absolument. J'aime les nouvelles réglementations. Il y a plein de choses que j'aime, que le baseball s'en va dans la bonne direction. Mais j'ai juste un petit peu, puis là, c'est peut-être la société en général, mais je veux peut-être, tu sais, qu'on n'oublie pas le petit côté humain qui fait que le sport reste humain. Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on déborde un peu de ce côté-là.
Oui. Marc, un dernier panel sur lequel je veux m'attarder, là, c'est le panel des arbitres. Ton bon ami Jeff Nelson était là. Écoute, il a raconté une anecdote, en fait. Écoute, lui a commencé sa carrière professionnelle en 89. Il est de la région de Saint-Paul, Minneapolis, en passant, une des raisons pour laquelle il était là. Retraité, sa première année comme retraité, mais encore impliqué, Marc, comme observateur des arbitres. Donc, Jeff Nelson racontait qu'à sa première année, on a mentionné que la Ligue Southern, les dirigeants de la Ligue Southern disaient on n'est pas prêt pour avoir des arbitres afro-américains dans notre ligue. C'était en 89. Tu t'imagines, Marc, tu étais, écoute, 40 quelques années après l'arrivée de Jackie Robinson. Tu sais, je sais qu'il reste encore du travail à faire, mais écoute, moi, ça m'a énormément surpris ce genre de commentaire. Comme quoi qu'on a encore, bon, je pense du travail à faire du côté de la société. Mais l'anecdote que j'ai retenue, Marc, c'est que lui, il n'y a personne qui voulait le voir derrière le marbre dans sa première année professionnelle. Puis c'est son superviseur, celui qui était qui s'occupait des arbitres, qui a dit aux autres équipes, vous allez l'endurer parce que il est là pour la saison, en fait. Je sais que tu as eu quelques débats avec lui au cours de ta carrière d'arbitre.
Alain, je te pose la question. Rappelle-toi ce que je t'avais dit, les premières rencontres qu'on a eues lorsqu'on a jasé d'arbitre. J'ai dit, moi, Jeff Nielsen, je l'ai connu. C'était sa première année professionnelle. C'était ma première année professionnelle. On s'entendait pas super bien. Moi, j'étais un voleur de but. Une couple de fois, il m'a retiré, puis alors que j'étais pas d'accord. Puis je l'ai jamais trouvé très solide. On va dire ça de même, alors que d'autres ont été très, très bons. Mais il a toujours été très sympathique. Et d'ailleurs, rappelle-toi, lorsqu'on a eu la Série mondiale à Los Angeles, il était d'ailleurs un des officiels de la Série mondiale à ce moment-là. Et j'étais allé le voir. Et il s'était rappelé de moi. Mais je suis pas sûr que c'était pour les bonnes raisons, mais il s'était rappelé de moi quand même.
Ouais. Et une des panélistes, c'était Emma Charlesworth Seller, qui a passé 6 ans comme arbitre. Elle s'est retirée il y a 2 ans, mais toujours impliquée dans la formation d'arbitre et a eu l'occasion de côtoyer Tania Millette. D'ailleurs, quand je me suis présenté à elle, que je lui ai dit que je venais de Montréal, tout de suite, elle m'a demandé. Tout de suite, elle a sorti le nom de Tania pour qui elle a énormément de respect. Comme je te dis, ils se sont côtoyés parce que Tania, il faut dire que c'est pas sa deuxième tentative d'être professionnelle. Elle avait décidé, là, pour des raisons personnelles, de ne pas continuer la première fois, mais là, elle a décidé d'y aller avec son va-tout. Donc, je peux dire, Emma Charlesworth Seller, qui était très enthousiaste à l'idée qu'elle soit de retour comme arbitre. Bref, c'était un congrès, Marc, là, où, comme d'habitude, il y a énormément d'informations qui étaient disponibles pour les panélistes. Et en fait, la plupart des présentations sont disponibles aussi sur le web. C'est pas, je veux juste dire, il y avait à peu près 600 congressistes sur place. Tu peux pas tout voir parce que souvent, il y a deux présentations en même temps. Et c'est pas destiné seulement aux spécialistes. N'importe qui peut être membre et peut avoir accès à une tonne d'informations. Et surtout, plus important en ce qui me concerne, en tout cas, à un réseau qui te permet là, de te garder en contact avec des comités qui sont aussi larges que le comité social, économique, statistique. Bref, il y en a pour les fous et les fins. Voilà, donc Marc, c'est le temps de présenter les matchs de la semaine, lundi, mercredi et dimanche, présenté par la boutique des fans. C'est votre boutique de cartes sportives et d'objets de collection à Hawkesbury, en plus de vous offrir des cartes Pokémon, Magic the Gathering et des figurines Funko Pop. On vous invite à consulter laboutiquedesfans.ca. 3 matchs cette semaine, les 3 à RDS. On verra les Red Sox de Boston ce lundi. Ça n'a pas été un gros week-end contre les Astros de Houston. Ils vont tenter de se reprendre contre l'autre équipe du Texas. En fait, c'est une séquence au cours de laquelle les Red Sox affrontent les Rangers et les Astros, principalement sur une période de 2 semaines. Donc, les Rangers ce soir au Fenway Park à compter de 19h. Les matchs au Fenway Park sont la plupart du temps assez divertissants. Mercredi, on verra 2 meneurs de division, les Dodgers de Los Angeles contre les Brewers de Milwaukee. C'est un match qu'on vous présente à RDS encore une fois. C'est à 20h puisque ce sera à Milwaukee. Et dimanche, on verra les Yankees de New York. C'est pas souvent, Marc, que vous avez fait Seattle avec Jasmin Leroux au cours de la fin de semaine. Ben, c'est pas souvent qu'on voit les Tigers de Détroit. Je dirais surtout depuis les belles années de Miguel Cabrera. Ben, on va aller voir les Tigers ce dimanche accueillir les Yankees de New York comme à chaque dimanche. Ben, le match vous est présenté à 19h. J'espère que ce balado vous a plu. On vous souhaite une excellente semaine de baseball. On se donne rendez-vous lundi prochain. Bye bye.
Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville. Fier partenaire de votre passion.